بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Essayer de se rapprocher un petit peu plus de Baraka de l'Assemblée, Inch'Allah. Toutes les louanges reviennent à Allah Rabbul Izza qui nous réunit ce soir dans cette décade de Dhul-Hijja pour accomplir une bonne action. Les actions les plus aimées par Allah sont celles accomplies durant cette décade de Dhul-Hijja. Ainsi, le croyant qui fait l'effort de faire de bonnes œuvres, de se rapprocher d'Allah, ses actions sont aimées par Allah et lui-même, il devient aimé par Allah. Et je pense qu'à chaque intervention depuis le début de ce mois de Dhul-Hijja, on le répète sans arrêt, que c'est la consécration, ça, pour un croyant, que d'être aimé par Allah, que de savoir que ses actions sont appréciées par Allah. C'est l'objectif d'une vie qui est atteint. C'est pour ça qu'on doit essayer au maximum de faire des bonnes œuvres. Et à mon humble avis, il y a deux actions qui doivent être vraiment, vraiment présentes dans chaque journée, dans nos 24 heures de cette décade, et qui est vraiment un signe de notre engagement et du sacrifice qu'on est prêt à faire pour Allah. Ces deux actions sont le Qiyam al-Layl, le Tahajjud, et le jeûne. Faire le Tahajjud, c'est un sacrifice sur sa personne, sur son sommeil, sur sa zone de confort. C'est se réveiller 4h30 ou 4h45, faire les ablutions, il fait frais en ce moment, alhamdoulilah. Et faire 2, 4, 6, le nombre de rakats qu'on peut faire pour Allah, en prenant conscience que Allah Azza wa Jal sera certainement satisfait de mes a'mal, parce que c'est la période par excellence où il faut rechercher l'agrément et la satisfaction divine à travers les bonnes œuvres. Et la deuxième action, c'est le jeûne. Hadith de lequel est stipulé que le prophète alayhi salat wa salam ne laissait jamais certaines actions, et parmi ces actions, le jeûne durant la décade de Dhul-Hijja, depuis le premier jusqu'au neuvième inclus. Et le jeûne fait partie des actions qui nécessitent un sacrifice sur sa personne, sur son nafs, sur ses désirs, où on sort de notre zone de confort. Et c'est un témoignage d'amour pour Allah. Donc, le faire, mais avec cœur. Le faire pour Allah, pas le faire comme une machine qui répète des actions, non. Le faire vraiment en prenant conscience que Allah a un regard spécial sur ses serviteurs durant cette décade. Et Allah est encore plus, le terme n'est pas adapté pour Allah, encore plus attentif, parce qu'Allah est toujours attentif, mais Allah voit et apprécie encore plus nos a'mal. Donc je fais ce qui est difficile de faire. Et je reprends, qu'est-ce qui est difficile de faire? C'est de se priver de manger, de nourriture, de boisson, et de se priver de sommeil. Et en joignant le Qiyam al-Layl avec le Somme, c'est vraiment une preuve que on a envie de faire plaisir à Allah Azza wa Jal. Et le summum, c'est jeûner le jour de Arafat, avec cette conviction que 2 années de péché peuvent être pardonnées par Allah, qu'Allah nous l'accorde. Et donc dans ces bonnes œuvres, se réunir pour écouter la sira de Al-Habib alayhi salatu wassalam, c'est une grande et bonne action. Les derniers, bon, après c'est vrai qu'on a été très souvent absent, c'est une fois toutes les 2 semaines, donc il suffit qu'il y ait un événement et que ça se produit 2 fois pour qu'on rate un mois. Wallah musta'an. Il y avait l'Assemblée Générale, il y avait une réunion. Mais quand on a la possibilité d'être là, on remercie Allah. Wallah, je suis tellement content et heureux d'être avec vous pour étudier la vie du prophète alayhi salat. Je ne vais rien vous apprendre de nouveau. Vous n'allez rien apprendre avec moi ce soir. On va juste réviser ce qu'on a appris à la madrasa. Je vous dis, c'est presque en confidence. Ce matin, en lisant, en préparant le cours de ce soir, c'est pas un livre que rien que Ben Moulissab n'a dans notre case, hein, c'est en vente partout. Al-Rahiq al-Makhtoum. Écrit par Al-Mubarak Fawri, un savant indien qui a remporté le concours de Sirat parmi des savants du monde entier. Et c'est un livre qui est magnifique. Il faut l'avoir. Surtout cette version cette version, elle est très bien. Et ce matin, je relisais le chapitre concernant, on verra ça peut-être dans un instant ou peut-être pas, Halima As-Sa'diya. Halima As-Sa'diya, celle, la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand elle explique comment est-ce qu'elle a trouvé la baraka dans sa maison. Juste la présence de ce bébé, alayhi salat wa salam, lui a apporté une bénédiction qu'elle n'a jamais connue de sa vie. Et lorsque le stade de l'allaitement était terminé, elle ne voulait plus se séparer de l'enfant. Elle a demandé à la maman du prophète de laisser Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avec moi encore quelques temps, ça lui sera bénéfique. Et c'est là qu'on voit que le prophète, alayhi salatu wa sallam, est mubarakan, aynama kan, et il est rahmatan lil alamin. C'est une clémence, une bénédiction, c'est une bouffée de, pas d'oxygène, mais de lumière pour l'humanité. Et ce que nous allons voir ce soir, c'est en rapport déjà avec le fait qu'Allah les choisit dans une tribu particulière, descendant de qui ? De plusieurs générations. Et on va voir qu'à travers l'histoire de chaque parent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ayah min ayatillah. Il y a un signe d'Allah qui prouve que l'enfant qui allait naître de cette lignée, ça allait être quelqu'un d'extraordinaire. Car chaque parent, grand-parent, arrière-grand-parent, avait accompli des choses très fortes dans leur vie et se distinguait parmi les Arabes à une époque où on est dans le Jahiliyyah. Et ça correspond un peu, si on fait une comparaison, on est en l'an 570. 570, ça fait combien ? C'est quel siècle ? Sixième siècle. Il faut toujours rajouter plus un. On est à peu près au Moyen-Âge. Et on sait, ceux qui ont regardé un peu les documentaires, je ne vous dis pas de regarder des films, mais si vous avez vu un peu comment ça se passait au Moyen-Âge en Europe. C'était vraiment une civilisation. Enfin, il n'y avait pas de civilisation. C'était une société de barbares où il y avait les hommes de religion, je ne dis pas quoi, qui avait le pouvoir, il y avait les riches, il y avait les nobles, et le reste c'était, wallah musta'an, il n'y avait ni foi, ni loi, il n'y avait rien du tout. Dans un monde plongé dans le chaos, et ce chaos concerne également la péninsule arabe, où les Arabes, et ça on a vu, on ne va pas répéter comment ils étaient avant l'islam, Allah Rabbul Izza envoie un homme qui va changer Makka, Madina, Al-Hijaz, la péninsule arabe, le monde entier, le Moyen-Orient et le monde entier. Rahmatan lil alamin. An-Nabi alayhi salatu wa salam, c'est le fils de... Qui peut me citer la généalogie du prophète sallam autant qu'il connaît. Allez, Hudhayfa, on essaie. Si on peut dire en arabe, c'est pas mal. Alors, voilà en français, Mohamed, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim et de Abdou Manaf. Dans les concours, ils demandent de connaître la généalogie en entier, d'accord ? Jusqu'à Adnan. Donc justement, on va voir, je pense qu'on avait déjà un peu abordé ça, mais dans le doute, on passe en revue assez rapidement. Déjà, le prophète, alayhi salatu wassalam, ses ascendants, on les appelle les Hashimites. C'est en rapport avec la tribu des Banu Hashim. Et là, on est dans la plus haute lignée chez les Arabes. Et on sait que chez les Arabes, à cette époque, il n'y avait rien de plus important que les ascendants et les descendants. La lignée, c'est ce qui faisait un homme. Ce n'est pas la richesse. La richesse, c'était un plus. Mais le plus important, c'était la lignée. D'accord ? L'arbre généalogique, est-ce que tu as des parents nobles ? Et An-Nabi alayhi salatu wa salam à la plus noble des descendances. Notre prophète alayhi salatu wa salam va vivre pauvre. Il n'aura jamais suffisamment à manger. Je fais une petite pause. Si je me perds, on me rappelle où est-ce que j'étais. On lisait dans la sirah dernièrement avec les élèves à la madrasa qu'après Khaybar, les sahaba dit qu'on n'avait jamais mangé à ventre plein jusqu'à la bataille. Hajib ça. On n'avait jamais mangé à ventre plein jusqu'à la bataille de Khaybar. Ça c'est des coups de... Pas des coups de poignard, des coups de décharge électrique, mais ça nous fait réaliser que qu'est-ce qu'on fait de ce dunya ? Quel ni'ma nous avons et qu'est-ce que nous en faisons ? Allah musta'an ! Les meilleurs des hommes n'avaient jamais mangé à ventre plein jusqu'à l'an, si je ne dis pas de bêtises, Khaybar c'est l'an 7. Jusqu'à l'an 7 à Madina. C'est-à-dire qu'il y avait les années Makki et les années Madina, jusqu'à là, ils n'avaient jamais mangé le ventre plein. Et quand il y a eu Khaybar, il y a eu beaucoup de récoltes, il y avait le pacte qu'ils avaient fait avec les tribus, que vous restez, vous habitez dans vos maisons, vous cultivez la terre, et en compensation, vous nous donnez la moitié des récoltes. Et c'est là que les savants disent que ça, c'est ce qu'on appelle, je utilise un terme anglais, un terme moderne, le leadership de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme qui avait une vision. Et nous, en tant que croyants, il ne suffit pas, c'est pas péjoratif, hein, il ne suffit pas de se prosterner, de rester dans la masjid, dans le dhikrullah, dans l'étude du Coran, dans le ta'lim. Tout ça, c'est très bien. Mais il faut avoir également une vision à long terme. Le leadership hérité du prophète alayhi salatu wassalam, si tu vois qu'est-ce qui sera profitable pour tes frères et sœurs. Par exemple, quelqu'un peut se dire que non, moi je fais mon namaz, mon tahajjud, je suis tranquille dans la masjid de Montreuil. Mais regarde la population qui a grandi. Regarde les enfants. Regarde les petits-enfants. Regarde le besoin. Regarde Salatul Jum'a. Il y a combien de monde? Regarde les terrains qui sont disponibles quand il y a une opportunité. Le leadership, la vision, c'est de penser sur plusieurs générations, bifadlillah, avec l'aide d'Allah. Mais essayer de penser à l'échelle de la umma. Ça, c'est une partie du leadership. Je ne sais pas comment ça se traduit en français, s'il y a une bonne traduction. D'ailleurs, je ne sais même pas ça veut dire quoi, leadership. Leader, je connais les chips, je ne sais même pas. Je connais les chips, mais je ne pense pas. Hein? Un visionnaire. Allez, on va dire un visionnaire. Merci. Et ce leadership nabawi, c'était comment faire en sorte que les enfants des musulmans aient de quoi manger. Subhanallah. Ça, c'est une vision qui découle de la clémence qu'il avait dans son cœur, mais en même temps de la patience qu'ils avaient. Parce que si on épluche tous les hadiths, hein, on n'a jamais, mais je vous promets, jamais lu ni entendu un sahaba se plaindre du manque de nourriture. Jamais. Le seul ishara, le seul signe, la seule information révélatrice, c'est lorsqu'ils disent que, et puis Ibn Azaba dit que, enfin, là, on sait qu'à partir de cet instant, on ne manquera plus de dattes ni de nourriture. C'est là qu'on réalise qu'avant, il manquait de tout. Enfin, il manquait de nourriture, mais il ne leur manquait rien en fait. Ils avaient Allah de leur cœur, de leur vie. Et donc, même si, comme une des épaules du prophète me dit que des mois et des mois ont passé sans qu'il n'y ait de fumée qui sortait de la maison du prophète, ça veut dire quoi, il n'y a pas de fumée? Ça veut dire qu'il n'y a rien à manger. Des mois! C'est pas comme nous, parfois, avant le salé, à 2 jours, 3 jours. Et encore, est-ce que, d'accord? 2 ou 3 jours, on mange des trucs simples. Non. Là, c'était des mois où ils mangeaient des dattes secs, ils buvaient de l'eau. Et rien. Pas de farine, même pour faire du pain. Ne parlons pas de la viande. Allah musta'an. Nous, si 3 jours, ils passent d'un point un peu gauche sur la table, ils disent, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a fini bien vegan, végétarien, qu'on n'a pas l'argent. On n'a pas fait qu'y manger, on n'a pas aller acheter, et tout. On fait preuve de nage au clair, d'ingratitude, et on manifeste notre colère. Ok, Allah nous donne plein de choses. Qu'est-ce qu'on en fait? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Qu'Allah ait pitié de nous. Qu'Allah ait pitié de nous. Bien. Donc ça, c'était pour montrer quel était le... Il y avait un autre truc important en parallèle, mais ça ne me revient plus. Le degré de... Oui, le prophète Sam a vécu dans la pauvreté et manque de nourriture. Mais le prophète alayhi salat wa salam a toujours été favorisé sur l'ensemble des Arabes par quelque chose que les Arabes chérissaient au-delà de tout, c'était la lignée, justement. Mohammed ibn Abdel, enfin, on va commencer par Hashim, parce qu'on va s'arrêter à... on va se contenter de 3 générations. Hashim, c'était donc l'arrière-grand-père, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette tribu avait hérité de 2 grandes responsabilités, qu'on appelait As-Siqaya et Ar-Rifada. As-Siqaya, c'était de donner l'eau aux pèlerins. C'était de servir l'eau aux pèlerins. Et Ar-Rifada, c'était de donner la nourriture aux pèlerins. C'était 2 grandes actions et qui revenaient à la tribu des Banu Hashim. Et c'était un grand honneur pour cette famille que d'avoir cette responsabilité par rapport à l'ensemble des Arabes qui venaient accomplir le Hajj. Na'am. Hashim, son arrière-grand-père, c'était quelqu'un de très riche et c'est le premier parmi les gens de Mecca à entreprendre 2 fois dans l'année le voyage vers la Syrie pour le commerce, en été et en hiver. Et là déjà, on fait un rapprochement avec un verset. Rihlat ash-shita'i was-sayf. Quand, dans la sourate Lila fi Quraysh, Allah rappelle ce bienfait, mais c'était un des bienfaits dont l'arrière-grand-père du prophète alayhi salat wa salam avait bénéficié de la part d'Allah. C'est-à-dire, depuis son arrière-grand-père, l'arrière-grand-père du prophète salam avait été honoré par Allah Rabbul Izzah et Allah lui avait accordé ce ni'ma de pouvoir faire le trajet entre Mecca et la Syrie 2 fois par an pour le commerce. autre ishara, autre point qui nous donne une vision de ce que aura le prophète alayhi salat wa salam lors d'un voyage en Syrie pour le commerce. Hashim s'était arrêté à Al-Madina. Et donc, arrivé à Madina, le prophète Hashim, l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a épousé Salma de la tribu de An-Najjab, grande tribu à Madina, qui devint donc l'arrière-grand-mère, qui était l'arrière-grand-mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, l'arrière-grand-mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam était Madaniya, son arrière-grand-père Makki et son arrière-grand-mère min ahlil Madina. Naam. Et Hashim est décédé en Palestine. Il est décédé à Gaza, en Palestine. Naam. Et parmi les enfants de Hashim, il y avait justement Abdul Muttalib. Et le vrai nom, ben ça, moi-même je l'ai appris, le vrai nom d'Abdul Muttalib, quelqu'un connaît ? Shayba. Son prénom, c'était Shayba. Et pourquoi il s'appelait Shayba ? Parce qu'il avait une petite quantité de cheveux blancs. Shayba, c'est avoir des cheveux blancs, d'accord ? Ça nous rappelle un de nos imams hein, qui a un petit peu de cheveux blancs, tout le monde de Montreuil, tout le monde sait c'est qui. Bah, c'était comme le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait lui dire que, mashallah, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un peu de cheveux blancs à cet endroit. Donc, on refait la parenthèse. Et là, on passe donc à Abdul Muttalib, de son vrai nom Shayba. Il avait également un surnom Al-Fayyad. Al-Fayyad, c'était la personne qui était d'une grande générosité. Et c'était quelqu'un de très aimé chez les Arabes pour sa grandeur d'âme, pour son charisme et sa générosité. Et Abdul Muttalib va vivre deux événements importants qui vont marquer notre histoire à nous, jusqu'à nous. Le premier événement, Allah lui a fait voir en rêve où creuser pour trouver le puits de Zamzam. Pour trouver le puits de Zamzam. Et donc, il a creusé là où Allah lui a montré dans son rêve. Et en creusant, il a trouvé des trésors. Il y avait deux gazelles en or. Et beaucoup de biens que des tribus arabes avaient laissés en quittant. Bon, après, on remonte à des faits historiques qui ne nous intéressent pas directement. Et avec cet or-là, et pour montrer comment c'était quelqu'un de désintéressé, il a pris cet or, il a fait fondre, il a construit une porte en or pour la Kaaba. Et à partir de cet instant, les Arabes ont eu accès à Zamzam. Donc ça, c'était un premier événement d'une grande importance. Et le fait que ce soit le grand-père du prophète sallam, ça renforce encore plus la reconnaissance des Arabes pour cette famille. Et tout le monde reconnaît que c'est une famille bénie. C'est une lignée qui est bénie. Et donc, celui qui va descendre de cette lignée sera accepté à l'unanimité. Même s'il est pauvre, même s'il sera orphelin, mais descendant de Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, khalas, il n'y a pas meilleure lignée que celle-là. Hada. Et deuxième événement, c'est justement en rapport avec Alam Tarakefa Fa'ala Rabbukabi, bi ashab il fil, c'est le roi Abraha qui est venu du Yémen, d'accord, et j'aime bien cette édition parce qu'on a de jolies petites cartes, ils ont même dessiné un éléphant, c'est bien dessiné aussi, donc ils étaient à Sana'a, ce qui correspond à la capitale du Yémen, et il a fait le parcours de Sana'a jusqu'à Mecca avec son armée. Alors, juste pour résumer ce qui s'était passé, Abraha, qui était donc de confession chrétienne, il était jaloux du fait que les Arabes s'orientaient vers la Kaaba. Et il a voulu construire une grande église, un monument de culte, pour que les Arabes viennent le voir, viennent dans son quartier, viennent à Sana'a, viennent dans sa ville, d'accord, plutôt que d'aller, que tout le monde aille à Mecca, autour de la Kaaba. Et là, il y a des Arabes qui ont entendu parler de ce projet et ils n'étaient pas contents. Et vous savez, malgré beaucoup de fitna à notre époque, vous avez remarqué que quand récemment, je ne sais même plus si des gens de quel pays, qui avaient parlé, oui, d'accord, à tort contre le prophète alayhi salat wa salam, il y a 3 semaines à peu près, on a vu le monde arabe se réveiller. C'est comme si qu'il dormait depuis très longtemps. Et tout le monde s'est réveillé. Même des pays qui, en général, ne se, ne se mettent pas en avant sur le fait religieux, comme le Qatar, comme ça, ils sont tous dit que là, on a touché à Al-Habib, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que c'est des valeurs très fortes qui restent chez les Arabes. D'accord? Même si des fois, malheureusement, on voit que dans les pratiques, il y a beaucoup de fitna. C'est une fitna qui s'est mondialisée. Mais des fois, on se dit que, mais pas eux. Mais après, quand on voit qu'eux aussi, Wallah Musta'an, on est attristé. Mais quand on touche à la Habib, quand on touche à la Kaaba, ce sont des notions sacrées qui sont enfouies dans leur cœur. Et donc, deux personnes de la tribu de Kinana, pensez des noms qu'on a déjà entendus, hein, c'était des grandes tribus avant, ils ont commis une petite erreur. Ils sont partis voir ce monument que Abraha avait fait construire. Dans Ibn Kathir, il dit que c'était tellement haut que la personne qui regardait le sommet de l'édifice, son topi, c'était pas écrit son topi, hein, son bonnet tombait en arrière. Les Arabes aimaient le langage imagé. Tellement c'était une construction impressionnante. Et donc, ils sont partis là-bas et ils ont souillé avec des excréments cet édifice religieux pour montrer que ça ne vaut rien. Il ne faut pas toucher aux symboles religieux des autres cultes. Ça n'apporte strictement rien. Pratique ta religion. Remercie Allah pour ce qu'il t'a accordé. Là, on parle de nous en tant que musulmans. Remercie Allah pour ce qu'il t'a accordé, le tawhid, le kalima la ilaha illallah, la possibilité de faire la salah. Et il n'y a aucune nécessité de toucher au symbole des autres religions. Ça, c'est une grosse erreur. Et ça, c'est la façon que le prophète nous a enseigné. Et ça permet de, bah, subhanallah, d'avancer en parfaite harmonie. D'où le verset, voilà, tasubbul ladina. يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. De ne pas insulter, il faut voir la bonne traduction, voilà, تسب الذين يدعون, de ne pas insulter ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah, parce que sinon, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont répliquer, ils vont dire la même chose concernant notre Créateur, et on serait d'une certaine façon fautif parce que on a provoqué le péché, on a provoqué le mal. Donc ça, c'est une façon de penser qui permet aux populations de vivre, alhamdoulilah, en paix. Naam. Et donc, Abraha s'était dirigé avec une armée de 70 000 hommes. C'est énorme. 70 000 guerriers. Et dans cette armée, il y avait entre 9 et 13 éléphants. Divergence entre les historiens. Et Abraha avait choisi le plus grand des éléphants. Dans Ibn Kathir, on dit que l'éléphant s'appelait Mahmoud. Naam. Et arrivé près de Mecca, voilà, je cherchais le nom de la vallée. C'est la vallée, on appelle ça Wadi Muhassar. Et cette vallée existe toujours. Quand vous faites Ziyarat de Mecca, si vous avez un bon guide, il vous montre où est la vallée de Muhassar. C'est entre Muzdalifa et Mina. Et après, si en faisant, Allah nous amène au Hajj, Inch'Allah, bientôt, l'année prochaine, que les conditions redeviennent normales, que les plus de 65 ans puissent faire le Hajj, Inch'Allah, et que les prix redeviennent des prix abordables, et qu'Allah nous emmène, Inch'Allah, et en visitant, enfin, après, pas de le Hajj, on ne voit pas parce qu'il y a tellement de monde, mais c'est un endroit entre Mina et Muzdalifa qui s'appelle Wadi Muhassar. À cet endroit, l'éléphant s'est agenouillé, il s'est agenouillé, et il a refusé d'avancer. Et Ibn Kathir, les cités, comment ils ont essayé de le frapper pour le mettre debout, il a accepté de se relever et d'aller vers le nord, vers le sud ou vers l'est. Mais pas l'ouest, parce qu'à l'ouest, c'était la direction de Makkah et la Kaaba. Et donc, il est resté bloqué là-dessus. L'éléphant n'a pas voulu avancer. En parallèle, Ibn Kathir, rahimahullah, dit que c'est ce qu'Allah a mis dans le cœur de cet animal. Et là, on voit que les cœurs sont dans les mains d'Allah. Pas que les cœurs des humains, les cœurs de chaque créature d'Allah, azza wa jal. Ça nous permet de renforcer une conviction, un yaqin en Allah, que c'est Allah qui fait tout. Avec ou sans intermédiaire, Allah est capable de protéger ce qu'il veut et qui il veut. Parce que les Arabes qui étaient à Mecca, autour de la Kaaba, ils étaient totalement impuissants. Ils n'avaient pas une armée organisée, encore moins une armée pour rivaliser avec l'armée d'Abraha et ses éléphants. Donc ça, c'était impossible. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand l'armée s'est approchée? Ils ont quitté Mecca. Ils sont partis dans les collines, dans les montagnes de Mecca. Ils n'avaient même pas pensé à essayer de se battre ou résister. C'était pas possible. C'était même pas envisageable. Naam. Et donc, les savants disent, les muadikhines et les ulama de la Sira disent que, en parallèle, on peut trouver dans la Sira un autre événement où Allah inspire un animal de faire quelque chose. Qui c'est qui peut le trouver? Après, on vous libère, Inch'Allah. Si on a la réponse, on s'arrête, Inch'Allah. Un animal qui a été inspiré par Allah pour prendre une décision qui sera d'une grande importance. On parle de là, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même pas des peuples avant. Ne me ramenez pas le houdhoud et tout. Ah, pas mal, oui, le nid de colombe. Oui, il y a de ça aussi. Oui. C'est Allah qui a mis dans leur cœur de. Et tout comme l'araignée qui a fait sa toile. Tout à fait, tout à fait. Je pense à un autre événement. Après, il y a plusieurs exemples possibles. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? La chamelle qui s'appelait Qaswa. Allah ybarik fik. La chamelle du Prophète, lorsqu'ils sont arrivés à Madina, Munawwara. Et en entrant à Madina, toutes les familles arabes. Toutes les familles madani voulaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'y avait pas de maison, voulaient qu'il soit leur invité. Et ils essayaient de prendre la lance de la chamelle. Et le prophète dit Da'uha, fa'innaha ma'mura. Da'uha, bima'na, laissez-la. Laissez-la. Elle suit des ordres. Elle ne fait que suivre des ordres. Et là, la chamelle a été inspirée par Allah pour qu'il s'arrête près de la maison de Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari, radiallahu anhu, chez qui c'était pas le plus riche, c'était pas le plus noble, mais Allah avait choisi Abu Ayyub al-Ansari, sa femme et sa famille, pour accueillir Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalu salah wa atamu taslim. Donc, on clôture. L'éléphant s'est arrêté et Allah, Rabbul Izzah, a envoyé d'autres animaux. Wa arsala alayhim tayran ababil. Ababil, ce sont des moineaux. Il ne faut pas croire que c'était des volatiles, enfin des aigles ou des ptérodactyles. Non, du tout, c'était. J'allais plus loin que toi, en fait. C'était des moineaux. Et quand on dit moineaux, c'est petit, d'accord? Et Allah avait inspiré à ces oiseaux de venir et de prendre une petite pierre. Dans certains textes, on parle même de l'argile. Et l'argile, là, vous pouvez l'écraser, hein? D'accord? Donc certains parlent de pierre, d'autres de l'argile. Trois. Ils étaient armés de trois petits cailloux. C'est plus fort que les drones qu'ils essaient de mettre en place maintenant, d'accord? Un dans le bec et un dans chaque serre. Oui, un dans chaque patte. L'oiseau a combien de pattes?
Deux.
Très bien. Et ils laissaient ces petits cailloux tomber sur une armée. J'allais presque dire une armée professionnelle, avec des armures, avec des armes de guerre et ainsi de suite. Ibn Kathir, rahimahullah, explique, c'est la description, elle est un peu, voilà. La pierre touchait leur tête, transpercée et ressortait par l'endroit où on évacue les aliments. C'est-à-dire que ça déchirait, ça le transperçait. Ça, c'était azabullah. Fid dunya. Ça, c'est le châtiment d'Allah dans ce dunya. Pour ceux qui ont osé défier et porter atteinte à Baytullah, la maison. Alors qu'à cette époque, Baytullah était entouré de combien d'idoles? Au minimum 360 idoles. C'était un lieu de shirk. C'était un lieu de polythéisme par excellence. Les Arabes se déplaçaient pour venir adorer Al-Lat, Wal-Uzza, Wa-Manat et Hubal et ainsi de suite. Les idoles qui étaient autour de la Kaaba. Mais malgré ça, il y avait une histoire. Et Allah, et je ne vais pas doubler le temps d'intervention, les savants disent tout ce qui se passe là à Mecca, Allah crée des situations pour protéger l'endroit qui va accueillir le prophète alayhi salatu wassalam, pour qu'il puisse naître quelques jours après dans un endroit qui n'a pas été pris et colonisé par l'armée d'Abraha, mais une cité qui est toujours libre et qui appartient au Ahle Makkah, et sur lesquels Abdul Muttalib, le grand-père du Prophète, a une emprise. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Qu'Allah Rabbul Izzah nous permet de comprendre ces quelques paroles et que son importance pénètre nos cœurs. Et permettez-moi de conclure avec une conclusion de Al-Mubarak Fawri. Il dit qu'en parallèle, dit des siècles avant, Jérusalem, et le Maqdis, qui était le premier Qibla, avait été le théâtre d'un massacre organisé par Nabuchodonosor, c'est en l'an 587 avant Jésus-Christ, et plus tard en l'an 70 de l'ère chrétienne, par les Romains. C'est-à-dire, une ville sacrée a été attaquée deux fois. et Allah n'a pas protégé ces villes sacrées. Alors que la Kaaba, alors que Makkah, qui, quand on parle de Bayt al-Maqdis à l'époque, c'est une ville sacrée et qui était protégée par des gens qui étaient de le haqq, qui étaient descendants de Isa alayhi salam, qui suivaient Isa alayhi salam. C'est-à-dire, ils étaient dans le droit chemin. Ils étaient les ceux qui suivaient, même si la religion avait été falsifiée, mais c'était des gens qui étaient ahl kitab. Allah ne les a pas protégés. Mais Makkah, qui pourtant était aux mains des mushrikin, des polythéistes, Allah a protégé pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça va être Allah, inshallah. Et la prochaine fois, on verra Abdullah, le père du prophète alayhi salatu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.